Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation. Bienvenue à l'épisode 22 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, on vous présente notre rencontre de questions-réponses enregistrée en juillet dernier, session qui abordait différentes questions préparées avec vous. Bon, ben profitons-en pour aujourd'hui, le 7 juillet, d'avancer dans notre session de questions et réponses. On a monté différentes questions basées notamment sur les discussions qu'on a eues avec les gens au courant des dernières semaines suite à la diffusion des 15 premiers épisodes du podcast. J'aurais peut-être tendance à prendre les 20 prochaines minutes, puis peut-être segmenter les différentes questions. Je sais qu'on a des questions pour toi, Véronica, des questions pour Jean-François. Vous en avez qui s'adressent peut-être plus à moi. On les a packagées, si je peux dire, en fonction des différentes thématiques. Donc, si je peux me permettre, moi, j'en ai une que j'aimerais d'abord commencer avec Jean-François. Quand on parle d'agilité, Jean-François, pourrais-tu faire la distinction entre ce que ça représente l'agilité pour l'individu, l'agilité pour le manager et l'agilité pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a des différences à faire?
La réponse est oui et non en réalité. L'agilité, le concept même d'agilité, c'est de se dire que pour solutionner certains problèmes ou des problèmes complexes, très complexes, hyper complexe, on pourrait aller jusque-là. L'idée est d'aller vers l'usager pour l'aide et de lui demander de définir son besoin ou de nous l'exprimer dans ses propres mots d'une manière courte et succincte. Et on va accumuler ces petites ces phrases-là ou ces bribes d'expression de besoin. Donc, pour le manager, je reviens. Pour l'équipier agile ou pour le membre d'une équipe projet ou pour l'individu, ça veut dire que on reconnaît, ça demande une reconnaissance que je n'ai pas tous les éléments en moi ou dans mon organisation ou près de mon organisation pour relever ce défi ou solutionner ce problème-là ou saisir cette opportunité. Donc, je dois le faire d'une manière collaborative avec mon cœur de cible, mon marché, ainsi de suite. Donc, pour l'individu, ça veut dire ça, c'est « je ne sais pas, je vais construire cette connaissance-là avec quelqu'un ». Pour le manager, bien, un peu la même chose, mais à des degrés différents. Donc, c'est le manager qui a l'habitude de décider ou d'arbitrer ou d'exercer ses pouvoirs hiérarchiques d'autorité, de sanctions, de récompense. Ça veut dire que tout ça est en train, ce pouvoir-là est en train de se déplacer. Il se déplace à la fois vers l'équipe et il se déplace aussi vers le client ou vers le marché cible ou les gens qui interviennent sur ce marché-là. Et puis, pour l'entreprise, en général, l'entreprise, son rôle évolue. Bien entendu, elle continue à offrir des produits ou services sur certains marchés, mais ces produits et ces services-là, selon certains secteurs, vont être co-construits à des degrés divers avec leur marché, avec avec les usagers ou le marché. Donc, et puis pour l'entreprise, ben, ça peut vouloir dire aussi pour les projets internes, reconnaître aussi que le changement ou les nouvelles initiatives ou transformer notre culture d'entreprise, bien, va se faire d'une manière beaucoup plus participative ou collaborative. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est des changements de paradigme importants.
Ben, je voudrais peut-être compléter ma question avec la suivante, c'est-à-dire, on a fait référence dans les épisodes entre le dosage, entre l'efficience et l'agilité, l'agilité permettant de faire face à l'incertitude. Dans un contexte d'entreprise à ce moment-là, c'est comment est-ce que c'est possible de trouver le bon dosage entre l'efficience et l'agilité? Est-ce que c'est une question d'arbitrage? Est-ce que c'est une question de bâtir des moments différents dans l'entreprise? Ou comment je pourrais dire, aller chercher la notion d'agilité là où est l'incertitude et travailler sur des vecteurs d'efficience où est-ce qu'il n'y en a pas? Pas d'incertitude, je veux dire. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'aborder?
Alors, il y a un peu des deux. Moi, je vais plutôt te dire que l'agilité, et c'est là où je vais passer le ballon, entre guillemets, à Véronica, parce que l'agilité, donc d'une part, il y a certains problèmes complexes ou très complexes que l'on ne solutionnera pas, entre guillemets, tout seul. Ça va se faire avec un collectif. Et là, maintenant, on commence à regarder les collectifs, soit un collectif avec des clients, soit un collectif de clients, d'entreprises, de citoyens, un collectif client, entreprise, citoyen, gouvernement. On commence à regarder ces choses-là. Hein? Donc, cette notion-là de dire je pense qu'on peut se dire, tout le monde est d'accord qu'il faut faire de la place dans l'espace public, par exemple, pour des mobilités différentes, plus douces, plus éco-responsables, plus orientées durabilité. Est-ce que ça se fait encore à la bonne vieille façon? Je sais ce qui est bon pour vous et je vais le faire. Ou au contraire, est-ce qu'on doit co-construire? Ce sont ces équilibres-là qu'il faut trouver. Au sein de l'organisation, il y a certaines choses qui fonctionnent d'une manière, comme on l'a dit, comme on en a parlé lors des podcasts précédents, un peu plus routinière. Hein. Ce sont des tâches qui ne sont pas des tâches projet, on parle de tâches plus opérationnelles. Là, on va plutôt se guider par l'efficience, mais moi, je reste très, très partiel à ces concepts-là d'amélioration continue. Et là, je pense qu'il faut reparler à Véronica sur ces questions-là. Donc, tout dépend du problème que nous avons à saisir. Je vais terminer par une citation d'un des membres de Agile Tour Montréal qui nous dit « Ça sert à rien de construire un pont sur une rivière » ou le nouveau pont Champlain, entre guillemets, là, il est terminé. Mais un pont sur une rivière d'une manière agile. Pourquoi? Mais parce que l'expression de besoin ne changera pas et les technologies utilisées pour construire des ponts n'évolueront pas durant la durée de vie de l'ouvrage. Donc, à savoir, la rivière ne s'élargira pas. On peut estimer raisonnablement précisément le trafic ou le nombre de personnes ou de véhicules, de trains qui vont passer sur le pont. Et puis, on sait à peu près la profondeur de la rivière. On est capable de prédire. Donc, les méthodes prédictives a priori, vont fonctionner beaucoup mieux que des méthodes itératives et incrémentales. Donc, je te renvoie, Véronica, sur cette question-là d'amélioration continue qui sont personnifiées, si je peux utiliser ce mot-là, par ce dont tu parles, le Lean, le Six Sigma, l'amélioration continue.
Mais avant de répondre, je voudrais juste faire un bémol sur ton commentaire pour le pont. Si on avait à refaire un nouveau pont Champlain, les besoins ne changent pas tant que ça. La rivière, la profondeur et tout ça ne change pas. Sauf que le bémol est tout dépendant combien de temps ça nous prend pour planifier le travail du pont. Parce que les besoins de l'usager, eux, vont changer sur une période de 5, 10, 15, 20, 25 ans si ça nous prend tant de temps que ça continuellement planifier nos infrastructures. C'est une question intéressante, le dilemme en quelque sorte entre l'efficience et l'agilité. Moi, je crois que d'un point de vue amélioration continue, il y a des choses où il y a des opérations ou des processus dans l'entreprise qui, eux, sont très bien établis et ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer qu'ils sont de plus en plus efficients. En sachant qu'à un moment donné, on peut plus, il y a des choses qu'on ne peut plus enlever d'un processus, ça va demeurer ce qu'il est. On l'a rendu déjà le plus efficient possible. On doit s'assurer que la communication se fait comme il faut, mais que le processus continue à bien rouler. Par contre, où il faut apporter de l'agilité, c'est ce que moi aussi j'appelle du slack organisationnel, c'est de ne pas saturer ou de ne pas sursaturer les gens, les équipements, les ressources, parce que là, on n'est pas capable de réagir quand il y a des situations qui arrivent qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Donc, le concept d'agilité ou le concept que, d'un point de vue opération, moi, je le vois beaucoup comme étant du slack, c'est vraiment de ne pas surcharger nos équipes. Donc, statistiquement, on sait que si on utilise plus que 70 % de nos actifs ou de nos heures de travail ou de nos équipements, n'importe quelle demande supplémentaire qui va arriver va faire en sorte que notre temps de cycle de production va grimper à une vitesse phénoménale. Donc, il faut qu'on s'assure d'être à 70-75 % de notre capacité et c'est ça qui nous donne de l'agilité en tant qu'équipe d'opération ou équipe d'amélioration D'accord. continue pour être en mesure de réagir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provient du marché, à qu'est-ce qui se passe des fois à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, oui, je crois, puis cette année nous l'a prouvé, l'efficience est nécessaire parce qu'on veut rester concurrent, on veut rester compétitif, on veut garder un contrôle sur nos coûts. Mais si on vise uniquement l'efficience et on n'a pas d'agilité, on n'est pas en mesure de réagir aux situations que le marché peut nous apporter, qui demandent justement du slack pour être capable de se retourner de bord et de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de voir comment on peut l'adresser. Donc, je pense qu'un équilibre est nécessaire en ce moment.
Pendant qu'on y est, Véronica, il y avait une question. Je pense que Jean-François avait une question concernant tout ce qui est Lean, Six Sigma, Jean-François.
Oui. Comment. Premièrement, la première question, c'est quoi toutes ces belts en Six Sigma? D'où ça vient, toutes ces black belt, yellow belt, green belt, blue belt, brown belt? C'est, à quoi ça sert? Qu'est-ce que, concrètement, à quoi ça sert?
Bon, la ceinture verte ou la ceinture jaune, c'est inspiré du karaté, c'est inspiré des arts martiaux. Donc, c'est des niveaux d'éducation et de capacité de maîtrise des outils et de la culture. Donc, on commence, puis encore là, malgré le fait que le Lean et le Six Sigma, on prêche énormément pour la standardisation, ce sont deux approches qui ne sont pas standardisées dans l'industrie, dans aucune industrie. D'accord. Pour une variété de raisons qui, au départ, moi, me semblaient vraiment comiques parce que je me disais, voyons, on prêche pour la standardisation, mais on ne s'est même pas standardisé nous-mêmes. Maintenant, je comprends pourquoi et c'est nécessaire que ça ne soit pas standardisé. Mais en fait, les différents niveaux de certification sont vraiment pour dire quel type de formation tu as reçu et quelle D'accord. est ta capacité à l'intérieur d'une équipe de projet en lien avec la formation. Donc, D'accord. la majorité des endroits vont avoir une formation, une ceinture blanche ou une ceinture jaune qui va être pour une introduction au Lean Six Sigma. Oui, mm-hmm. c'est ça. Donc, ouais. c'est pour apprendre le langage, une petite introduction de qu'est-ce que c'est puis comment on l'utilise dans notre propre entreprise. Ensuite, on va avoir une ceinture verte qui, elle, généralement, va être environ 5, 6 jours, 7 jours de formation où là, on commence à inculquer des concepts de gestion de projet, d'analyse statistique, surtout dans les volets de Six Sigma. Ouais. Ouais. Et puis, ce sont des gens qui commencent à avoir la capacité ou qui développent la capacité de gérer des projets accompagnés de Black Belt.
Ouais.
Les Black Belt, c'est une formation hyper intense. Ça dure 4 semaines, généralement sur 4 mois. Bien entendu, n'importe quelle des formations vertes ou noires, on doit aller faire la formation avec un projet déjà en tête parce que c'est beaucoup plus facile d'appliquer toutes les notions qu'on va développer, oui. qu'on va apprendre. Oui. Donc, la formation Black Belt, c'est sur 4 semaines. Là, on pousse davantage le côté statistique, on pousse davantage aussi tout ce qui est la gestion du changement, la gestion d'équipe. Les Black Belt, généralement en entreprise, ils vont être à 100 % sur des projets d'amélioration continue. Ils vont avoir un rôle de gestionnaire de projet. Ils vont avoir un rôle de coach et d'accompagnateur pour les autres gestionnaires de projet qui sont Black Belt. Et ils vont avoir aussi un rôle comme formateur pour les ceintures blanches, les ceintures vertes et pour partager la culture au sein de l'organisation. Et finalement, il y a les Master Black Belt. c'est pas des formations comme telles. Puis selon l'organisme qui donne la certification, les processus sont un peu différents. Mais le Master Black Belt, généralement, ce sont des gens qui, eux, ont étudié le volet culturel de l'organisation beaucoup plus en détail. Ils ont coaché et formé les Black Belts. Et donc, eux, ils rentrent en entreprise pour aider à déployer, pour mettre en place la stratégie de déploiement d'une D'accord. culture d'amélioration continue. Okay.
Pendant que je suis sur ce sujet-là, je vais en poser une deuxième, Eric, si tu me permets. Là, je vais faire un peu professeur Nantel, bien sûr, parce que je regarde, moi, quand j'ai découvert l'agilité, je me suis dit, mais d'où ça vient, tout ça? Et en creusant un peu, j'arrive à un ancêtre commun hein, dans notre évolution de ces approches-là, qui s'appelle Deming. Deming et son Plan, Do, Check, Act, la fameuse route Deming en français, c'est encore d'actualité aujourd'hui?
Absolument, absolument. Surtout dans le manufacturier, on parle de plus en plus d'automatiser, de robotiser, de tout le machine learning et tous ces concepts-là. Ce que les ordinateurs ne seront pas encore capables de faire parce que la technologie n'est pas encore rendue là, à moins que je me trompe, mais ce qu'ils ne seront pas encore capables de faire, c'est de régler des problèmes complexes. Et la roue de Deming ou le PDCA, c'est une méthode éprouvée pour travailler en équipe, comme tu as mentionné tantôt, qu'on n'y a pas une personne qui détient toutes les connaissances requises, donc on travaille en équipe pour, bien comprendre notre problème, donc le plan, bien comprendre la problématique qu'on essaie d'adresser et pourquoi c'est une problématique et qu'est-ce que ça nous cause comme impact, pour être capable ensuite de déterminer des solutions possibles pour les tester. Oui. Donc, ça, c'est notre doux, de tester différentes approches, différentes solutions selon ce qu'on a étudié dans notre étape précédente. Ensuite, on valide dans le check ou study, il y a deux approches, on valide est-ce qu'on vient d'essayer d'implanter, est-ce qu'on a testé, est-ce que ça nous apporte les résultats voulus? Si oui, bien, on les met en place, on forme toute l'équipe, on les intègre dans nos processus d'affaires et on continue à contrôler pour s'assurer qu'on maintient ce qu'on a déterminé qui était nécessaire. Ouais. Et si jamais la solution ne nous permet pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné, bien, c'est un processus itératif, comme dans l'agilité, on revient en arrière pour bien saisir et bien reparler de notre problématique et de tester d'autres solutions. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous apprend la méthode scientifique de réflexion. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment la méthode scientifique. Et quand on regarde plusieurs articles qui parlent de quelles sont les compétences nécessaires dans les 5, 10, 15 prochaines années, la résolution de problèmes complexes et la méthode scientifique font partie, je pense, des top 5 des compétences qu'on a besoin. Donc, est-ce que le PDCA est encore actif? Absolument, il est plus que nécessaire maintenant.
Je n'avais pas fait le lien entre le PDCA et la méthode scientifique observation, formulation d'hypothèses, vérification des hypothèses et formulation.
C'est exactement la même chose.
Ah ben merci, ça c'est un très bel apprentissage aujourd'hui. Éric, j'en aurais peut-être une pour toi.
Oui, vas-y donc.
Tu fais souvent référence au modèle soit de nouvelle génération, business model new generation ou
business model generation
ou en français business model nouvelle génération, ce que je trouve vraiment pas super. Celui qui me charme le plus, c'est le value proposition design, hein, la conception d'une proposition de valeur en français. Et à l'intérieur de ça, je vais rester dans la terminologie anglophone. Pains, gains, jobs to be done. Est-ce que quand tu travailles avec ton client, tu mets tout ça au même niveau dans le développement d'une proposition de valeur? Ou est-ce que tu as tendance à surpondérer ou sous-pondérer certains de ces trois éléments-là?
Bon, la réponse, je te répondrai de deux façons. La première, c'est pas moi qui surpondère ou sous-pondère, c'est le client. Parce que c'est ultimement, quand on travaille avec les clients, c'est on les aide à la réflexion. Donc, à quelque part, c'est eux qui vont être capables de faire une priorisation qui existe en arrière. Le mot-clé, c'est priorisation. Évidemment, il y a des bons. Je prends pour l'exemple, si on prend une automobile, je pense que ça va faire réflexion à référence à ce que tu dis. Le besoin fonctionnel d'une automobile, c'est de se déplacer du point A au point B. Ça, c'est l'offre de service pour rencontrer un besoin qui s'appelle le besoin de se déplacer. Évidemment, il y a différentes offres de services qui sont possibles. Il y a des trains, il y a des automobiles, il y a se déplacer à pied, il y a du vélo, etc., etc. Il y a Uber, il y a plein de façons de desservir ce besoin-là. Maintenant, si j'approfondis un petit peu plus la réflexion, le besoin de se déplacer, qui est le besoin fonctionnel, j'ai peut-être d'autres éléments qui touchent cet élément-là. C'est-à-dire, j'ai peut-être un besoin de reconnaissance, j'ai peut-être un besoin d'avoir une expérience agréable pendant que je me déplace.
Donc, ou d'éviter le trafic, par exemple.
D'éviter le trafic, ça peut être, j'ai besoin d'espace autour de moi parce que dans l'environnement, je dois transporter peut-être une marmaille de 3 à 4 personnes, etc., ouais. etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes besoins fonctionnels sont accompagnés de besoins de pains et de pains et de gains, c'est-à-dire des pains, ouais. c'est des éléments que je veux éviter. Ouais. Des gains, c'est des éléments qui permettent de bonifier mon expérience, qui sont des éléments ouais. souvent qui ne sont pas fonctionnels, qui peuvent être des éléments qui sont de nature psychologique, qui sont de nature sociale, etc. Il y a différentes façons de l'explorer. Mais en arrière de ça, ce qu'il faut voir, c'est que certains ont peut-être une prédominance plus importante que d'autres. Et ça, c'est au client à travailler ça dans sa phase d'exploration pour comprendre le besoin de son client. D'accord. Il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres. Donc, quand il va bâtir son offre de service, il va vouloir concocter une solution ou une offre de service qui va évidemment pas juste rendre le besoin fonctionnel, mais va être capable d'aller chercher d'autres éléments qui touchent D'accord. ce besoin-là. Et c'est comme ça qu'il va bâtir une offre de service qui va être unique par rapport à d'autres. Donc, on va s'entendre que si on parle d'automobile, l'offre de Mercedes ou de BMW est très différente de l'offre de Hyundai, de Kia ou d'une marque, je veux dire, peut-être plus commune. Oui. Donc, il y a des différences et on va chercher sur ces axes-là pour justement bâtir un brand, bâtir une offre de service, bâtir une reconnaissance qui va être différente parce que notre segment qu'on va aller toucher va pas vibrer sur les mêmes variables. Donc, longue réponse, mais c'est pour vraiment voir que ces trois éléments-là s'articulent de façon, se concoctent d'une façon très précise et c'est au client à faire un ordre là-dedans, là, qu'est-ce qui fait du sens pour pouvoir adresser des besoins de son client.
Okay. Mais c'est drôle, pendant que tu expliquais tout ça, dans ma tête, ce qui se dessinait, c'était le modèle de Kano. K-A-N-O. Okay. C'est un modèle justement qui regarde qu'est-ce qui est absolument nécessaire ou critique, mm-hmm. Qu'est-ce qui est le nice to have, et dans le milieu, ben, c'est qu'est-ce qui est nécessaire et qui va te permettre de faire. Mais l'exemple que moi, j'avais appris quand j'avais appris ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait justement d'un automobile avec les vitres électriques. Okay. Et qu'il disait, dans les années 70, les voitures avec les vitres électriques, il y en avait très peu et c'était du luxe. Donc, mm-hmm. ça faisait partie de la courbe, justement, qui était dans le nice to have, mais pas nécessaire. Mais aujourd'hui, si tu regardes l'évolution de l'automobile, ben, les fenêtres électriques, c'est partout. Là. C'est plus un nice to have, là. C'est comme nécessaire. C'est presque rendu critique à l'achat d'un véhicule. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant parce que ça m'a permis d'imager ce que tu as expliqué.
Ouais. C'est un très bon lien, effectivement.
Mais moi, j'ai une question aussi pour toi, Eric. Vous savez, moi, j'ai un bac en sciences politiques, donc l'aspect administration publique m'intéresse beaucoup et je pense que nos gouvernements ont une grande place à jouer dans la société et dans le bien-être de la population. Et je me demande, est-ce que l'innovation, c'est possible dans les services publics?
Ben, je crois que oui. Je pense que c'est pas à savoir est-ce que l'innovation est possible, c'est beaucoup plus est-ce qu'on est capable de mettre en place les conditions pour que l'innovation puisse prendre forme et se développer. À travers les épisodes, puis hein, ça remonte à quand on a fait, entre autres, l'étude sur les pratiques d'innovation, maintenant, il y a trois éléments qui sont critiques. Il y a l'élément de stratégie, donc il faut que l'innovation cadre dans un contexte qui permette de faire avancer l'entreprise ou, dans ce cas-ci, l'organisation. Mais ce qu'il faut aussi, c'est déployer un contexte organisationnel qui est conducteur d'une culture d'innovation et qui va faire en sorte que les pratiques vont pouvoir porter fruit et vont pouvoir s'établir dans le temps. Donc, si je reviens, je prends ces trois vecteurs-là, je pense que l'enjeu n'est pas une question de pratique d'innovation, l'enjeu est une question de donner le contexte organisationnel pour pouvoir faire en sorte que les pratiques d'innovation puissent prendre leur essor et que ça vient s'aligner sur les orientations stratégiques. On est dans un contexte politique, on sait tous, autant au Canada qu'en Amérique ou en Europe, les enjeux, les calendriers politiques sont probablement le plus gros enjeu auquel l'innovation doit faire face. C'est-à-dire que si on change de direction politique parce que c'est un parti de gauche versus un parti de droite, l'agenda politique vient de changer, l'agenda d'innovation vient de changer. Donc, compte tenu que ces cycles-là, c'est des cycles quand même assez courts, c'est des cycles de 4 ans, puis les dans un contexte où est-ce que les organisations politiques et les structures organisationnelles là, dans le domaine public, c'est quand même assez gros, c'est quand même assez lourd. On a besoin d'espace pour pouvoir prendre que c'est des pratiques d'innovation puis la culture d'innovation puisse prendre forme. Donc, je pense qu'il faut transcender les agendas politiques. Il faut aller un peu plus loin qu'un cycle de 4 ans. Et je pense, dans mon sens, c'est le plus gros défi. Donc, je crois que oui, c'est possible, mais il faut faire face à ce défi-là. Et ben ça, c'est une question de volonté politique. Puis je pense, Véronica, dans une discussion qu'on avait antérieurement, tu parlais des Jeux de Barcelone.
Ouais.
Notamment, où est-ce que c'est le, ben, je vais te laisser y aller parce que je pense que c'est un super exemple. Puis je lisais dans un papier en fin de semaine, c'était un peu le même cas pour Monaco, la façon qu'ils ont déterminé leur planification stratégique et comment que Monaco a pu devenir une destination pour gens riches et célèbres, si je peux dire comme ça. Et c'était vraiment sur un horizon très long qu'ils ont pu bâtir cet avantage concurrentiel, si je peux dire de cette façon-là. Mais Véronica, j'aimerais t'entendre par rapport à l'exemple de Barcelone, parce que je pense que c'est la réponse à la question que tu poses.
Oui, tout à fait. En fait, on sait tous que quand il y a des Jeux olympiques, il y a des investissements massifs que les gouvernements, que les sociétés font pour être capables d'accueillir les Jeux, entre autres dans la création d'infrastructures, donc de complexes résidentiel pour les athlètes, pour les gens qui viennent participer aux Jeux, quelconque leur rôle est dans les Jeux. Ces utilisations-là, ces infrastructures-là sont souvent négligées par la suite quand les Olympiques sont finis. On a une vision, la plupart des pays, malheureusement, ont une vision très court terme de « on bâtit tout ça pour recevoir les Jeux, mais après les Jeux, on en fait quoi? » C'est pas très clair. Ce que Barcelone a réussi à faire, qui est quand même extraordinaire, c'est que quand ils ont accueilli, pour accueillir les Jeux de 92, ils ont dû créer un nouveau stade, des résidences, des bâtiments extraordinaires. Là, si vous avez la chance d'aller les voir, ça vaut la peine. Mais ils ont eu à créer des bâtiments pour accueillir la population de masse qui venait se présenter aux Jeux en 92. Et leur planification stratégique était faite sur le long terme. Donc, oui, on devait construire des bâtiments pour héberger, par exemple, les athlètes et les juges et les officiels qui venaient travailler aux Olympiques. Mais la vision était que ces appartements-là, par la suite, devenaient des appartements pour des résidents de Barcelone. Donc, il y avait une vision court terme qui était « on doit créer tout ça pour les Jeux olympiques », mais il y avait la vision long terme de dire « qu'est-ce qu'on fait après les Jeux olympiques et comment on va utiliser ces installations-là ». Donc, aujourd'hui, si vous visitez Barcelone, vous voyez que les résidences qui étaient les résidences des athlètes sont presque toutes utilisées. Le stade qui a été construit est encore utilisé. La tour de communication qui est fabuleuse d'un point de vue architectural, elle est encore utile. Donc, il y a énormément d'éléments qui ont été construits pour les Jeux qui sont encore… 30 ans plus tard, encore en utilisation et qui sont de toute beauté. Donc, si jamais vous avez la chance d'y aller, quand on va pouvoir recommencer à voyager, je vous encourage à aller les voir.
Oui, à Paris 2024, ils ont aussi un mandat de faire des jeux durables, entre guillemets.
Exact.
Donc, l'infrastructure de transport, comme tu dis, toute l'infrastructure d'hébergement des athlètes, des journalistes, enfin, tout un ensemble d'infrastructures au-delà des infrastructures sportives en tant que telles.
Oui.
D'accord.
Moi, j'aimerais ça en profiter pour... peut-être on peut poursuivre, peut-être pour quelques minutes encore. Véronica, tu parles souvent du lean dans le domaine manufacturier. Tu fais beaucoup référence, parfois même au domaine de la distribution. Mais est-ce que le lean peut s'appliquer dans le domaine des services?
Absolument, oui. Oui, oui et oui. Pour moi, c'est presque plus important dans le milieu du service que dans le milieu manufacturier.
Ah bon?
Je m'explique. Dans le milieu manufacturier, on fabrique un produit de A à Z dans notre environnement qu'on contrôle jusqu'à un certain point. Si on ne contrôle pas toujours à 100%, mais on a plus de contrôle dans notre environnement manufacturier. On fabrique à l'intérieur de nos 4 murs ou avec des 4 murs de nos partenaires avec lesquels on peut exercer un certain niveau de contrôle. Mais le client reçoit le produit à la fin de la fabrication. Donc, on a un plus grand contrôle, puis encore, c'est toujours au contrôle, entre guillemets, mais on a un plus grand contrôle sur chacune de nos étapes de fabrication pour livrer le produit à notre client. quand on est dans une industrie de services, le concept du back office et du front office devient encore plus important. Parce que oui, il y a des éléments qu'on peut faire dans le back office où le client n'est pas impliqué directement, mais la majorité des services qu'on va livrer, on va créer le produit. C'est une information qu'on va partager, mais on va créer cet élément-là qu'on va partager avec le client, avec le client, souvent devant nous. Le meilleur exemple, c'est le milieu de la santé. Donc, le service au milieu de la santé, c'est de soigner quelqu'un, de faire un pansement, de faire des points de suture. Mais on ne peut pas faire les points de suture sans le patient devant nous. Le patient est là, il faut qu'il fasse partie de livrer ce service-là. Et donc, cet aspect-là, on a beaucoup moins de contrôle, particulièrement dans le milieu de la santé, où là, on est en train d'aider quelqu'un qui a peut-être peur, qui a mal, qui est insécure, qui ne sait pas trop ce qui va se passer, qui a une panoplie de réflexions et d'émotions qui passent dans l'équation. Donc, on ne peut pas dire, ben le pansement, il va prendre 2 minutes, puis après 2 minutes, il faut que je passe au prochain. Ça ne fonctionnera pas. Donc, dans le milieu du service, on doit s'assurer que toutes nos étapes d'entreprise qui sont essentielles à notre succès et dans lesquelles le client n'est pas impliqué, que ces étapes-là sont raccourcies, améliorées, efficientes au maximum pour qu'on puisse passer du temps là où on crée la valeur, et ça, c'est devant notre client à livrer le service et le produit qu'on est en train de créer pour eux. Oui. Le meilleur exemple que je peux vous donner, à part du milieu de la santé, on a tous des téléphones cellulaires, des téléphones, des télévisions, Internet et tout ça. Bien, faites juste penser combien de temps ça prend à ouvrir un compte chez une de ces entreprises-là quand on change de compagnie. Donc, nous, on est prêts, on veut faire notre changement, on veut changer de compagnie A à B pour X raisons. Mais ça prend combien de temps pour la compagnie B à ouvrir le compte, à venir chez vous, faire l'installation? Est-ce qu'ils viennent une fois? Est-ce qu'ils viennent deux fois? Est-ce qu'ils viennent trois fois? Tous ces éléments-là, c'est des choses qui créent énormément de frustration chez le client, qui part très mal la nouvelle relation d'affaires. Mais en même temps, c'est des choses qui sont plutôt dans leur contrôle à eux, parce que nous, on ne fait que subir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Surtout, ben, je dis subir parce que on n'a pas tous des très bonnes expériences de transformation de télécom, mais on subit les défaillances du processus interne de l'entreprise. Et dans une entreprise à service, je ne pourrais pas le dire assez souvent, c'est encore plus critique d'améliorer ces processus internes, de faire du Lean, de faire du Six Sigma, de trouver ce qui va fonctionner pour l'entreprise et les méthodes qui vont fonctionner pour être capable d'améliorer le travail et l'efficience de tout ce qui est dans le back office.
Ouais. La prochaine fois que je vais prendre un vol ici en Europe de EasyJet, qui est un des leaders sur les fameuses airlines, compagnies aériennes, transporteurs aériens low cost. En Amérique du Nord, ce serait Southwest Airlines. Je vais regarder ça avec cette perspective-là, voir si ces gens-là arrivent à baisser leurs coûts parce qu'ils sont plus conscients du niveau de qualité attendu ou du niveau de qualité perçu à chaque étape du rendu du service. Avec, bien sûr, bon, tous les aléas qui vont avec la météo, bien sûr, mais aussi les aléas qui font qu'ils dépendent d'un aéroport. Hein. L'aéroport, c'est encore national, hein, c'est encore, qu'on le veuille ou non, c'est encore une des rares choses qui sont presque toutes public dans le monde. Hein. Même les Américains, tout est privé là-bas. Les aéroports, c'est encore public. Très intéressant. Belle réflexion.
Mais en fait, je ne connais pas bien EasyJet, mais Southwest, il y a un paquet d'études de cas qui ont été faites sur eux. Et pour eux, pour qu'ils soient capables d'offrir les prix qu'ils offrent, leur côté efficience et leur gestion de leurs opérations, c'est critique. Sinon, ils ne seraient pas capables de respecter ces coûts-là. Et ça tourne, comme on dit au Québec, au quart de tour. Là. C'est vraiment très, 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 très bien structuré pour que ça puisse rouler. Même exemple, la Formule 1. Quand une voiture arrive au pit, ça ne peut pas prendre 3 minutes. Il faut que ça soit rapide parce que ça a un enjeu important. Donc, c'est des cas, la Formule 1, le pit de la Formule 1, c'est des exemples qu'on donne toujours dans des projets Lean où ce que tout le monde connaît sa chose, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il y a un travail d'équipe extraordinaire.
Et contrairement au NASCAR, ils ne sont pas limités en nombre de personnes pour le faire, je crois. NASCAR, je pense que c'est seulement 4 ou 6 personnes, mais en Formule 1, ils peuvent, entre guillemets, s'ils pouvaient le faire à 20, ils le feraient peut-être à 20, je ne sais pas.
Ouais. Ça, je ne le sais pas. Mais ce qui rentre en ligne de compte dans ces cas-là, c'est justement, puis ça s'applique aussi dans un certain point dans le manufacturier, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour réduire le temps chez le client parce qu'on le sait que ça ne changera pas. Donc, qu'est-ce qui est standardisé au point dans notre livraison de produits ou de services? Qu'est-ce qu'on peut préparer en avance pour être prêt quand le client arrive pour que ce soit plus court avec le client et qu'on contrôle plus notre processus? Puis ça s'applique aussi dans la fabrication. On va faire, je pense que c'est Zara qui avait un exemple de ça. Il fabriquait des vêtements. La partie facile, il la faisait à l'étranger. Dans les pays asiatiques, où il importait le matériel, toute la même couleur, mais c'était rendu en Espagne ou en Europe, que là, ils appliquaient les boutons spécialisés, ils faisaient la coloration du tissu. Donc, la partie facile de la production, elle était la plus efficiente possible et le coût le plus bas possible. Mais la partie la plus complexe, elle était faite où il y avait la connaissance et l'expertise pour le faire au meilleur coût et avoir le meilleur rendement.
Ouais.
Fait que ça s'applique aussi au service. Okay. Ben moi, j'aurais une question pour Jean-François.
Oui, vas-y.
On entend beaucoup parler de la méthode agile, les Scrum Master et tout ça, beaucoup dans le milieu informatique, dans le développement informatique.
Oui.
Mais dans quelle autre industrie est-ce qu'on voit tout ça s'appliquer et est-ce que ça prend la même forme ou il y a des variances dans tout ça?
Donc, la première partie, je vais répondre à ta question en quelques volets. Le premier volet, c'est qu'on peut pas, on ne peut pas parler de méthode agile. Il n'y a pas de méthode agile. Il y a des approches agiles. Donc, autrement dit, l'approche agile, comme j'ai commencé à en parler, c'est qu'on construit avec le client ou l'usager final une expression de besoin dans son langage. L'équipe agile, elle, traduit ces besoins-là dans son propre langage et fonctionne par itération courte. Certaines approches comme Extreme Programming vont travailler sur des approches très, très courtes. On va parler de quelques jours, voire une semaine. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines dans certains cas. Mais dans certains cas aussi, on va aussi loin qu'une demi-journée. Donc, chaque sprint, qui est un terme Scrum, dure seulement une demi-journée dans certains cas. Ça peut aller jusque-là. Donc, première chose. Bien sûr, on le voit tous ou on peut l'imaginer, l'image mentale est relativement aisée. Ces approches-là se prêtent très, très, très bien à tout le domaine de ce que j'appellerais la révolution numérique. Sans vous renvoyer au podcast de Matthew, cette question-là de pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'investissement majeur en matière, en matériel. Ensuite, moi, dans ma réflexion par rapport à tout ça, premièrement, on peut s'ajuster en fonction du type de projet qu'on fait. Par exemple, améliorer le service client dans dans un restaurant, dans un magasin, dans un hôpital, tout ça. Mais en se donnant une période courte, mais qui soit cohérente avec le type d'activité que l'on fait. Donc, autrement dit, le lead time qu'on va retrouver à l'intérieur de ce genre de choses-là. Donc, dans le bâtiment, les lead times sont plutôt en termes de semaines, ou voire en mois. On va travailler différemment. La même chose, par exemple, pour le téléphone, le téléphone mobile, le téléphone portable qu'on aime tous, qui est devenu notre 11e doigt maintenant, là, ou le 213e os du squelette humain. Enfin, il y a toutes sortes de choses à dire. Ça fait partie de nous. Regarde un peu, moi, je vais regarder Apple, mais je pense que c'est les téléphones que j'ai, que je suis toujours intéressé par. Non, pas nécessairement par l'innovation qui va venir avec chaque itération, mais comment la presse et le marché vont réagir par rapport à ça. Et comme si à chaque fois, ils s'attendaient à ce qu'un star is born à chaque itération. Mais bon, on voit que chez Apple, l'itération est sur une période d'environ 12 mois. À l'intérieur de ça, je ne connais pas les processus que Apple utilise pour arriver à être capable de commercialiser des téléphones qui se vendent en dizaines de millions et très, très rapidement. On peut facilement imaginer que ce sont des processus assez rigoureux et assez lourds. Mais pour décider qu'est-ce qu'on met dans le prochain téléphone et qu'est-ce qui ne sera pas prêt pour le prochain téléphone, je suis convaincu qu'Apple doit avoir des cycles d'essais et de test and learn ou d'essais et d'erreurs qui sont relativement courts j'imagine en matière de moins que le trimestre, en tout cas certainement. Donc cette question-là, c'est vu de ma fenêtre, c'est une question d'échelle par rapport au projet que nous faisons. Maintenant, dans Agile at Scale, si on commence à dire on veut augmenter l'agilité dans l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter le niveau de participation des individus, donc les individus au sens large du terme, les employés, les fournisseurs, nos clients, les différentes parties prenantes qui gravitent autour. Hein, donc, on va parler de services gouvernementaux, de forces de l'ordre, de services municipaux. Là, ça va être un petit peu différent. Là, il va falloir travailler un petit peu différemment. Et on pourra faire évoluer cette période-là en fonction de l'expérience que nous prenons. Au fur et à mesure qu'on descend de la courbe d'apprentissage de ce que nous faisons, eh bien, on pourra à ce moment-là soit raccourcir ou tenter de raccourcir ces itérations.
Donc, c'est autant qu'on a entendu parler du lean provenant du manufacturier puis de l'automobile en particulier. Oui. L'approche agile est apparue vraiment au niveau informatique, mais oui. Ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, les deux approches peuvent s'appliquer à une variété puis à une multitude d'industries et d'activités.
Oui, et donc agile, un peu comme lean, un peu comme Six Sigma, c'est des mots qui commencent à avoir ce que j'appelle une notoriété. Donc, oui. Il s'agit juste de s'assurer que, comme on dit souvent dans le podcast, je ne veux pas dire des synonymes parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais ça provient du même principe. Donc, ce qu'on fait, c'est on augmente le niveau d'implication et de participation, soit des employés, soit des clients, dans l'élaboration des produits et des services que nous amenons au marché ou dans le processus d'innovation pour aller vers Eric, ainsi de suite, hein, pour résoudre nos problèmes, pour aller vers Véronica, pour innover ou pour élaborer une stratégie aussi. Hein, quand on parle de Scaled Agile, hein, les articles qu'on trouve dans le Harvard Business Review, on va parler de run-on strategy ou de stratégie agile. C'est un petit peu les mêmes principes. Autrement dit, je n'ai pas toutes les informations. Je dois constituer des collectifs et je dois traduire ce langage-là en langage de l'entreprise et d'apprendre de nos erreurs. Et puis, donc, on rentre dans un schéma qui est moins linéaire, qui est a priori qui pourrait sembler plus chronophage, donc plus lent, mais qui nous permet de rester un peu plus près de ces évolutions de nos besoins clients et de rester plus réactif. Hein. Ton slack organisationnel, bon, je reviens à cette question-là, ta notion de slack organisationnel et puis innovation dans les services publics. On sait très bien que, bon, les mauvaises langues vont dire que de toute façon, il y a beaucoup de slack organisationnel dans les services publics. Mais en réalité, je pense qu'au contraire, non, il n'y en a peut-être pas. Hein? Il y en a peut-être très peu en réalité. Pourquoi? Parce qu'on veut en avoir pour… On dépense l'argent du public. Donc, on n'a pas tendance à se laisser de la marge de manœuvre. Et ça, le changement culturel au niveau service public peut être complexe, peut être long aussi, très long à faire.
Écoute, je pense que je pourrais faire un podcast au complet sur la notion de slack organisationnel parce que ce que tu viens de mentionner, ça rentre dans le est-ce qu'on a planifié avoir du slack pour pouvoir l'utiliser à bon escient dans l'entreprise ou est-ce qu'on a du slack sans l'avoir planifié puis on le considère comme du gaspillage? Fait que c'est deux notions complètement différentes et très opposées de la notion du slack qui peuvent avoir des impacts très opposés l'un à l'autre, mais on pourrait en parler pendant un podcast au complet. Fait que je me prends une note, on le fera.
On le fera comme Nokia. Et puis, je trouverai un mot pour mes abonnés français, un mot qu'ils vont comprendre parce que Slack, ils vont se dire « Kézako, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? » Mais on trouvera un mot. On le fera pas là tout de suite.
Non, c'est bon. Mais une des choses aussi que tu mentionnais, on parle beaucoup de nos trois approches qui permettent d'amener de la pérennité dans une entreprise, d'améliorer, d'innover, de rester sur une bonne posture pour faire face au futur. Mais oui. Une des choses qu'on n'a pas vraiment mentionnées, je pense, jusqu'à maintenant, puis je crois pourtant qu'on apporte un impact important là-dessus, c'est au niveau de la rétention des employés. Si on est comme Eric avec l'innovation, si on crée une culture d'innovation dans l'entreprise où chacun des employés peuvent collaborer à l'idéation, à générer des nouvelles idées, à participer à l'élaboration de ces nouveaux produits et services-là, la même chose au niveau de l'agilité, d'aller chercher le pouls du client, d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché, et la même chose d'un point de vue d'amélioration continue, de faire participer les gens dans l'élaboration des nouveaux processus et de la compréhension de qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça a un impact sur la rétention des employés parce que là, on crée des équipes qui sont capables de travailler ensemble, qui sont capables de se fixer des objectifs, de travailler pour les atteindre, mais exact. Aussi, ça crée des équipes qui savent, qui comprennent exactement quel est leur rôle dans l'entreprise et comment ils collaborent au succès de l'entreprise. C'est pas juste « je bouge le produit du point A au point B puis c'est ça ma job ». Non, oui, je bouge le produit du point A au point B, mais je peux faire ça ici. Et quand je bouge le produit, c'est ça l'impact sur l'entreprise. Donc, je pense que ça a une... En tout cas, moi, je suis certaine que ça a un impact important sur la rétention des employés.
Oui, c'est une conséquence importante, on est d'accord. C'est aussi un critère important. On le voit tout de suite hein, quand on parle d'agilité. Les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Pourquoi? Parce que dans l'agilité, le management devient distribué, n'est plus pyramidal. Donc, on n'a pas une personne qu'on dit « toi, tu es le manager ou le chef ou le responsable », enfin, peu importe. D'ailleurs, en Scrum, on parle de « product owner », on parle de « Scrum master », mais on ne parle pas de « project manager ». On a évité ce terme-là. Je pense que Sutherland et les autres qui ont conçu, entre guillemets, cette approche, l'ont fait à cet escient, d'ailleurs. Je vais quand même dire que le management, entre guillemets, par les pairs, qui est une caractéristique d'une équipe performante, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont réfractaires à ça. Certaines cultures, ça passe mal. Comme tu dis, cette question-là de rétention, je le mettrais dans une perspective plus grande de croissance d'entreprise, de développement d'entreprise. Et effectivement, il y aura des endroits où il y a des cultures, où il y a des pays où ça, les méthodes agiles passent mal. Ces concepts-là ont de la difficulté à être approprié à ce que les gens se les approprient, se donnent la permission de ne pas décider, et puis ça va être le client qui va décider, entre guillemets.
Okay. Ouais. Je voudrais peut-être en dernier point, juste faire un lien sur quand vous parliez tantôt de Southwest, quand vous parliez de toute cette notion de back office, front office, les choix opérationnels qu'on fait, de savoir sur lesquels on veut être performant, sur lesquels on veut être moins performant. Et ça m'amène à un point, une longue discussion que Jean-François et moi, on a depuis, je dirais, plus de 10 ans. Quand Jean-François, tu me dis tout le temps l'océan bleu, l'océan bleu, l'océan bleu, il n'y a jamais d'océan bleu.
Non, et, moi, et, je vois pas.
Et je soulevais un point que je pense qui est important. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que toute forme de stratégie doit être adaptée à la réalité du marché et doit surtout évoluer en fonction aussi de l'environnement concurrentiel. Mm-hmm. Ça étant une première des choses. Donc, évidemment, si on parle d'innovation, si on parle de modèle d'affaires, on doit être capable de faire évoluer son modèle d'affaires. Et l'innovation n'est pas fixe dans le temps. L'innovation, c'est un mouvement vers l'avenir. C'est un mouvement qui permet de transformer des opérations, l'offre de services, qui permet de structurer un avantage concurrentiel qui va évoluer dans le temps. Je pense que ce qu'il faut retenir du Blue Ocean Strategy, c'est les outils qu'on nous donne et le mindset qui est en arrière. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans les outils, et d'ailleurs, les auteurs du Blue Ocean Strategy n'ont pas été les premiers à parler du Strategy Canvas, quand on parle de faire état des critères de succès ou les critères d'achat de notre clientèle. Donc, dans notre aréna concurrentielle ou dans notre segment, nos clients réagissent à certains facteurs de concurrence qui font en sorte que mon offre se positionne comme étant peut-être la meilleure, la moyenne, dans le middle of the pack, ou finalement, c'est un peu moche. Ces critères-là amènent une réflexion à savoir où est-ce que j'ai la chance d'être supérieur et où je suis vraiment pas bon? Donc, est-ce que je dois retirer certains dans mes opérations? Est-ce que je dois faire le choix? Est-ce que je peux faire le choix de retirer certains éléments sur lesquels je ne peux pas concurrencer? Et où sont les opportunités où est-ce que je suis capable de me démarquer en mettant plus d'emphase sur ces vecteurs-là? Et c'est le Strategy Canvas le canevas de stratégie de Blue Ocean Strategy est très, très, très bien pour ça. D'ailleurs, Anne Frey, je ne me souviens plus comment on peut l'appeler, c'est Uncommon Service. Donc, elle a appliqué, c'est écrit même avant le Blue Ocean Strategy de mémoire, ou à peu près dans les mêmes moments. Donc, elle applique la même réflexion au domaine des services. Donc, il y a des choix à faire qui font en sorte que notre offre de service, notre value proposition va être différent et notre modèle d'affaires va être conçu différemment. Ce qui est le fun dans le Blue Ocean Strategy aussi, dans les outils qu'on nous donne, c'est que ça nous amène à réfléchir en termes d'expérience client, pas juste en termes d'expérience, mais le customer journey. Donc, tantôt, quand vous parliez de la téléphonie, à titre d'exemple, donc, le avant, le pendant, le après, la consommation et le décommissioning des appareils, si je peux dire, dans ce secteur-là, ça ouvre la porte à un paquet d'éléments où est-ce qu'on peut créer de la valeur. Et donc, si, par exemple, les joueurs qui sont dominants dans le marché sont très bons dans le début du processus, mais sont très mauvais dans la fin du processus. Il y existe des clients qui seraient susceptibles de venir chez vous parce que c'est ce qui est important pour eux. Bien, les outils que Blue Ocean Strategy propose permettent d'avoir cette réflexion-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le Blue Ocean Strategy. Ça nous amène après ça, bien évidemment, dans toute la série de discussions qu'on a eues, comme dans le reste des approches en stratégie, bien, ça donne un agenda de transformation, c'est-à-dire comment l'entreprise va passer du point A au point B pour livrer cette valeur-là. Ouais. Et à ce moment-là, comment qu'on va l'opérer? Et ça, ben, le Blue Ocean Strategy nous permet justement d'avoir ce regard critique sur les différentes composantes de qu'est-ce qui crée de la valeur. Et à mon sens, c'est l'avantage de ce qui est apporté. Est-ce qu'un océan bleu est créé à vie? Je ne crois pas. Je pense que ça change dans le temps. Faut comprendre que il y a une thématique dans le Blue Ocean Strategy aussi qui est apportée. C'est la notion des consommateurs actuels, les consommateurs qui sont prêts de faire qui sont déjà chez les concurrents, mais qui vont venir chez vous. Mais ceux aussi qui ne sont même pas sous le radar. C'est des gens qui ne consomment aucune offre qui est dans le marché parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Donc, l'approche sert à aller chercher c'est quoi ces besoins-là. Et là, je réfère à la première question que tu me poses au tout début. Il y a une priorisation à faire, il y a des choix à faire et c'est ce qui va nous amener à définir une stratégie qui, sans tout on l'espère, soit gagnante dans le temps.
Oui, je profite parce que ici, à Paris, j'étais de temps en temps, je vais au club économique France-Québec. Et une fois, j'avais été invité parce que et je suis allé et c'était le président fondateur du fabricant de vélos Argon 18.
OK.
Je ne sais pas si vous avez connu, vous en avez entendu parler. Enfin, il court sur les grandes courses cyclistes. Il sponsorise des grands coureurs cyclistes. Et à la fin de sa présentation, j'étais allé voir, j'oublie son nom, le fondateur. Et je lui avais posé la question exactement dans ces termes-là. Mm-hmm. Il dit, pourquoi avoir été compétitionné dans l'océan rouge de la fabrication de vélos de course? Alors, il n'y a pas un océan plus rouge que ça, puis il y a des gros joueurs qui sont très, très, très bien installés là-bas, qui ont une tradition, qui ont une notoriété très, très forte. Et il m'avait répondu de manière toute simple. Il m'avait dit, parce que je voulais, aucun de ces vélos-là ne me convient parfaitement. Je voulais faire le vélo qui me convenait parfaitement. Et c'était vraiment une façon, entre guillemets, j'avais trouvé ça de s'entêter vers une certaine qualité ou une certaine conception d'un produit ou d'un service. Ici, c'est un vélo, ça pourrait être une voiture, hein? Ça pourrait être... Et ça m'avait changé ça, cette perception-là. Aussi parce que, personnellement, je crois toujours que l'océan est toujours rouge. Le fait qu'il soit bleu, c'est très, très rare. Moi, je pense que le premier iPhone a été clairement un exemple d'océan bleu, un peu comme mais le reste du temps, c'est une technologie qui prend un certain temps avant de s'imposer, comme la photographie numérique, le Kodak dont on parle de temps en temps, tout un ensemble. Mais c'est rare, donc c'est pour ça que je dis à mes clients, ces questions-là d'océan bleu, faut pas peut-être pas nécessairement chercher l'océan bleu comme étant une espèce de Graal ou de nirvana du business. C'est effectivement un nirvana du business, mais grosso modo, comme tu dis, ça durera pas nécessairement très longtemps.
Puis pour conclure sur ce point-là, hier, je rejetais un look. Un coup d'œil. Sur Blue Ocean Shift, le deuxième bouquin qu'ils ont écrit. Et puis, il y avait des éléments dans le livre que je trouve excellents, et des éléments sur lesquels je ne suis pas d'accord du tout. Puis bon, c'est correct. Je pense que c'est le privilège de ces auteurs-là, qui sont des professeurs à l'université, de pousser dans une certaine direction. Oui. Je crois que nous, comme praticiens, c'est aussi d'avoir une pensée qui est peut-être un peu plus intégrative, de voir qu'est-ce qu'on peut prendre à gauche, qu'est-ce qu'on peut prendre à droite, comment qu'on peut adapter ça à la réalité d'un client et d'en faire quelque chose qui fonctionne pour le client. Alors, pas d'avoir une rigidité méthodologique en tant que telle. Puis je conclue sur ton point quand tu parles d'océan rouge. Pour moi, ça revient à l'exemple que j'ai déjà mentionné quand je parle du 8e fleuriste du village. Clairement, pour moi, ça, c'est un océan rouge. Si tout le monde compétitionne sur les mêmes critères de compétition, ben à quelque part, il n'y a pas de stratégie. Là, on rentre dans toute la discussion, a-t-on une stratégie, n'a-t-on pas de stratégie? Si on ne développe pas d'avantage concurrentiel, ben à quelque part, on est dans un océan rouge. Maintenant, c'est là que je m'inspire je m'inscris un peu en faux par rapport aux auteurs du Blue Ocean Strategy. Pour eux, la notion, ils disent, ben, t'sais, un avantage concurrentiel, c'est pas important parce qu'on a un océan bleu. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'au contraire, il faut développer quelque chose qui nous rend unique. Appelons ça après ça un avantage concurrentiel si on le veut. Mais si on n'a pas ce facteur d'unicité-là, quelque part, on est comme les autres. Donc, c'est pas vrai qu'il n'en faut pas. Il en faut un.
Les requins, quand ils vont arriver, des fois, ils sont
voilà. Aussi, hein? Donc, quand ils vont arriver, si on n'a pas de position sur laquelle on peut se défendre, c'est fini. Voilà. Et je crois que l'exemple qu'ils ont donné du Cirque du Soleil était un bon exemple dans le temps. Où est-ce que d'autres offres sont arrivées dans le marché? Où est-ce que les choix et les goûts des clients ont évolué aussi dans le temps? Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça reste extraordinaire, ça reste une offre quand même incroyable, mais c'est pas, ça n'a plus la même connotation que ça l'avait en 2005. Là.
Elle s'est standardisée, je veux pas dire banalisée, mais bon, on pourra avoir une discussion là-dessus. Là. C'est intéressant, hein? C'est vraiment, c'est très, le cas du Cirque du Soleil est vraiment un cas délicieux, entre guillemets, vraiment très, très intéressant.
Bon, si ça vous dérange pas trop, je pense que je mettrai peut-être un terme à notre discussion d'aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait faire facilement encore une heure, mais on va en garder pour le mois d'août. Jean-François, Véronica, peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte.
Ben, moi, je reviendrai sur un des points que tu viens de mentionner qui faisait aussi référence à un point que j'ai dit au plus tôt, puis qu'on répète à presque tous les podcasts qu'on fait. L'important dans tout ce qu'on présente puis dans tout ce qu'on discute depuis le début de notre expérience de podcast, c'est que pour n'importe quelle entreprise qui veut entreprendre toutes ces démarches-là, ce qui est important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour elle, dans sa culture et dans ses valeurs, dans le respect de ses gens et de son approche, pour que ça fonctionne. Donc, c'est pas de prendre une recette qui existe déjà ailleurs, c'est pas de prendre ce qui a été standardisé dans quelques industries que ce soit, mais c'est de bien s'approprier ce qu'on essaie de faire à notre culture et de l'intégrer dans notre culture et dans nos valeurs avant d'essayer de copier ce qui a été fait à l'extérieur. Mais aussi, je veux juste vous dire, j'ai vraiment aimé notre approche d'aujourd'hui d'échange de questions plus en format blitz, réponse plus rapide. Exact. C'est très divertissant et très, très inspirant. Merci.
Très stimulant. Moi, le mot de la fin, il y en a deux. Un, c'est cohérence. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, cohérence d'ensemble. Et le deuxième, c'est diversité. Donc, l'agilité, c'est bien, mais si on n'a pas de diversité au sein de nos recherches, pour aller trouver ces expressions de besoin-là. Si on néglige certains pans ou certains segments qui peuvent être importants, eh bien, on peut, je ne veux pas dire faire fausse route, mais passer à côté de quelque chose qui peut avoir énormément de valeur. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Véronica. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous aujourd'hui.
Excellent. Donc, on se retrouve dans une semaine pour d'autres épisodes. Merci à vous.
Merci.
Merci. Salut. Merci. Bye. Au revoir.